Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 16 de Coup Critique. Je m'appelle Francis, voici Pierre-Philippe. On est vraiment content de vous retrouver encore une fois pour vous parler de jeux de rôle ici, des jeux de rôle en québécois, puis faits par deux passionnés comme moi puis Pierre-Philippe. On espère que vous suivez le trait, que vous suivez, dans le fond, tout ce qu'on fait pour vous donner le plus d'informations possible. Puis on peut déjà dire qu'il y a une super belle réponse. On lit tous vos commentaires, toutes vos interactions, toutes vos suggestions aussi. C'est vraiment cool de voir que vous êtes à l'écoute. Puis dans le fond, toi Pierre-Philippe, comment ça va cette semaine? T'as-tu joué à quelque chose en particulier?
J'ai joué à quelque chose. En fait, juste avant la rencontre, avant notre enregistrement qu'on fait présentement, j'ai eu juste une petite rencontre quick avec des amis pour la création de personnages du jeu de rôle de Star Trek, sorti par Modifius. Okay. Je vais probablement en parler plus en détail dans une autre capsule, un autre soir, où est-ce que je vais vouloir aborder plus peut-être des jeux de rôle de science-fiction. Je trouverais ça cool de pouvoir parler un peu de ça. Ça ressemble pas mal à ça. Je trouve que c'est plutôt tranquille. Là. Je suis dans ma dernière semaine de rush de travail avant les vacances. Fait que j'ai moins... un peu moins de temps pour gamer, mais je vais essayer de me rattraper dans les prochaines semaines. Ça, c'est sûr et certain.
En tout cas, Pierre-Philippe, il est toujours au courant de tout ce qui se passe parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais Donjons & Dragons ont lancé l'annonce, en fait. Ils ont fait l'annonce qu'ils allaient sortir un coffret spécial pour Curse of Strahd Revamp. Oui. C'est toi qui me l'as envoyé. Puis t'étais vite comme l'éclair.
Hey, mon Dieu, hey, mais c'est parce que je capote. Là. Ça, c'est une des campagnes que je fais présentement. Puis, tabarnouche, avoir su, j'aurais attendu. Parce que pour de vrai, ça a l'air vraiment beau. Puis, je trouve que le prix est quand même très raisonnable pour toute la quantité de stock qui vient avec.
Oui. D'ailleurs, on peut peut-être faire un aparté là-dessus, mais c'est quand même récent. Fait que c'est sûr que Wizard of the Coast se ressort Curse of Strahd, mais ça s'appelle Curse of Strahd Revamp. Hein? Ouais. Revamp. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, ce que c'est un coffret en forme de cercueil. Pour faire plaisir à notre ami vampire, qui comporte l'aventure Curse of Strahd, mais revisité légèrement, surtout pour actualiser certaines erreurs, on va dire comme ça, des erreurs qu'ils ont faites dans le passé, que ce soit les errata qui étaient nets, autant que l'aspect plus où ils jouaient beaucoup sur des stéréotypes de gitans pour des Vistani, puis des trucs comme ça, c'était vraiment pas habile. Il y avait une grosse partie qui avait annoncé qu'elle allait changer à propos de ce produit-là. Puis finalement, c'est fait. Puis en plus, ils livrent dans un ensemble où vous avez des cartes, de la documentation à remettre aux joueurs. Vous avez le fameux paquet de cartes, le Taroka.
Oui.
Avec un livret d'instructions sur comment le lire. Oui. Le livre est décomposé aussi. Ils ont mis le bestiaire à côté. Donc, vous avez un livre pour l'aventure, un livre pour les monstres. Plus facile de naviguer. Là-dedans aussi. Il y a des cartes postales.
Oui, mais elles sont tellement belles, les cartes postales de Barovie, là.
Oui, j'entendais Chris Perkins qui disait l'idée, c'était d'envoyer une carte postale à vos joueurs parce que c'est tellement quelque chose que Curse of Strahd ferait. Ben, que Strahd ferait, dans le fond, d'envoyer une carte et dire « Venez à moi, puis venez jouer, puis vous perdre dans Barovia. » Mais c'est ça, super belle boîte. Le prix, 100 US quand même.
Oui.
Et ça sort le 20 octobre. Présentement, je pense qu'il y a juste des commandes qui sont possibles sur Amazon.com, donc la version des États-Unis. C'est pas mal ça, mais je vous conseille de contacter votre magasin local de jeux puis de voir avec lui s'il pense faire des commandes dans son magasin pour ce produit. C'est un produit d'une édition spéciale, fait que d'après moi, ça ne reviendra pas. Ça va être un one-shot deal. Puis ça va être ça. Puis on dit Oui, puis on dit que si ça avait un succès, ça ouvrait peut-être la porte à d'autres ensembles comme ça à sortir directement, puis de pas toujours attendre à un Beedles and Grimms à 500$ d'un kit. On peut comme ça s'acheter une expérience un peu plus immersive déjà avec un kit comme ça.
Puis pour le reste, c'est vraiment cool qu'ils mettent le Taroka deck. Là. Je ne sais pas si tu sais à quoi il sert ce deck-là dans le jeu.
Oui, mais je crois que ça influence. Certaines habiletés des personnages ou certaines choses qui peuvent arriver aux personnages dans la partie de Curse of Strahd, right?
Oui, entre autres, et ça, c'est un aspect que j'avais trouvé très cool dans le DM. C'est pas un punch que je fais du tout parce que c'est pas un spoiler, là. C'est que le DM peut le jouer ainsi, c'est qu'il peut, dans le fond, piger des cartes au hasard avant la première partie, lorsqu'il prépare, par exemple, la campagne, pour, dans le
OK.
fond, citer à quel endroit va se trouver, dans le fond, tel objet magique ou tel personnage utile ou tout ça.
OK.
Fait que pour lui-même, il y a comme une surprise, en quelque sorte. T'sais, il sait pas jusqu'à ce qu'il pige la carte. Puis il réagit sa game en conséquence.
Ah, c'est cool ça.
Ouais.
Ah, j'aimerais tellement ça jouer que ça, John. Ouais, ça a l'air vraiment le fun. Puis en plus, ça sort juste avant l'Halloween, hein? Fait
Ouais.
que, à la limite, si vous connaissez déjà, vous l'avez déjà, ça peut être un ajout intéressant si vous n'avez pas acheté des accessoires. Il y a des grandes cartes qui sont aussi disponibles, des choses que. Tout, plein de choses en fait qui peuvent servir à un DM. Si vous ne l'avez déjà pas acheté, ben là, vous pouvez sauter là-dessus. C'est vraiment le fun. Puis surtout que la version qui sort a été justement remodifiée, puis où toutes les corrections ont été faites. Là, c'est déjà plus fun si c'est votre premier DM. Puis pour ceux qui. Toi qui fais que Softstrad, Pierre-Philippe,
Oui.
vite, c'est une aventure. Quelle ambiance? Peux-tu nous parler un peu
Ben
de
mon Dieu,
ça?
c'est le truc le plus. T'sais, jusqu'à tout récemment, je pense que c'était considéré, du moins dans les tops que je vois, comme étant la meilleure aventure publiée justement par Wizards of the Coast pour la 5e édition, parce que
Ouais.
c'est du très gros bac à sable, dans le sens que les joueurs peuvent se pitcher absolument partout. Le terrain de jeu est gigantesque, c'est la Barovie, le territoire de Strahd. Et ils ont vraiment beaucoup, beaucoup d'options de déplacement, de découverte. Puis c'est une très belle campagne qui est tricotée serrée, vraiment, côté relation de personnages, l'espèce de menace tout le temps présente de Strahd. Strahd, c'est vraiment un personnage qui... C'est un des personnages principaux, autant que les joueurs dans cette campagne-là, parce qu'il est tout le temps là en train de lurker les personnages dans l'obscurité. Il est tout le temps présent ici où... à droite ou à gauche, puis il y a des thèmes très matures dans cette campagne-là. Ils mettent l'advertising dessus, là, sur le livre, quand tu le lis, là, ils disent « Préparez-vous, il y a des aspects quand même assez flyés, là, des trucs que tu ferais pas n'importe quoi, comment je peux dire, que tu n'aborderais pas nécessairement avec une clientèle plus jeune. » Fait que non, je trouve que c'est quand même une très belle aventure. Moi, ça fait quasiment 2 ans que je la run avec ma gang.
Deux ans,
Puis,
OK.
ouais. Puis on n'est pas sur le bord d'avoir terminé pendant tout. On prend vraiment notre temps comme un bon vieux vin qu'on sirote
Ben, si t'aimes
doucement.
l'univers aussi, si t'aimes juste dans cette espèce
Oui.
d'enclos-là, puis épeurant, tu sais pas qu'est-ce qui peut se cacher dans l'ombre, puis
Oui, vraiment, vraiment, vraiment.
c'est.
C'est vraiment cool
Reste
pour ça.
là, construis-toi une petite maison, puis habite,
Mais non,
habite là.
vraiment pas. C'est genre la pire place que je voudrais habiter, je pense, dans un royaume oublié, là. C'est horrible comme endroit, mais je vous conseille quand même de l'essayer pour de vrai. Ça vaut vraiment la peine. C'est une très belle aventure.
Pour faire un lien boiteux, parlons de choses qui ne sont pas horribles du tout, mais d'excellents jeux. Puis, dans le fond, en parlant de jeux qu'on voulait couvrir, Pierre-Philippe a suggéré un thème pour le podcast d'aujourd'hui. Puis, je pense que on va vraiment entrer dans une catégorie spécifique de jeux de rôle. On oublie D&D, on oublie le fantastique médiéval, le high fantasy, là. Puis on rentre dans l'univers nostalgique. J'appellerais ça le thème, ce serait la nostalgie des jeux qui nous poussent à jouer dans des époques anciennes, mais plus dans le côté, mettons, années 80, années 70, années 90. Jouer dans ces zones-là. Puis le jeu, moi, dont je veux vous parler, c'est un jeu qui s'appelle Kids on Bikes. Un jeu écrit par Jonathan Gilmore et Doug Lewandowski. Merci à Renegade Game Studios de nous avoir envoyé Kids on Bikes et aussi Teens in Space. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler surtout de Kids on Bikes parce que c'est la genèse un peu de l'autre projet. C'est le premier livre, en fait, de cette série-là qui ben, qu'est-ce que c'est Kids on Bikes? C'est, ça vous pousse à jouer un enfant, mais il y a aussi la possibilité de jouer un adolescent ou un adulte, mais un enfant avec dans un groupe d'enfants, dans une gang, qui assiste à des phénomènes paranormaux ou à la limite des phénomènes étranges, des enquêtes policières dans l'époque des années 80. Donc, c'est un livre qui est vraiment intéressant justement pour expliquer cette thématique-là. Ça marche avec un système de dés assez intéressant, je trouve. C'est au lieu de je vais sortir de la fiche de personnage. Dans le fond, au lieu de rouler des statistiques ou des points de vie, comment ça fonctionne, c'est que vos statistiques, vous en avez 6, et chaque statistique, vous choisissez le dé avec le plus de valeur pour chacune de ces habilités-là. Donc, si, mettons, vous voyez plus comme un team athlète jock, bien, vous pourriez mettre peut-être dans fight puis brawn, vous pourriez mettre votre dé 20 puis votre dé 12, par exemple. Ça va vous donner des possibilités de rouler plus haut. Puis, dans le fond, tout fonctionne avec des ability checks. C'est un jeu très narratif, surtout. Il n'y a pas de point de vie. Mais c'est un jeu super intéressant juste pour son artwork, sur la direction qu'ils ont voulu prendre avec le jeu. Toi, je pense, Pierre-Félix, tu as joué à Kids on Bikes.
Je l'ai lu en partie, mais je n'ai pas joué, par exemple.
Ah, OK.
Je n'ai pas joué. Écoute, français, je n'ai pas joué à tous les jeux qui me tombent sous la main. Sinon, je serais probablement mort de fatigue. Mais je l'ai lu. Okay. Je l'ai lu parce que avec une amie, justement, ça a été dans nos projets de s'essayer justement avec ce jeu-là. On cherchait l'espèce de feel, justement, les 80-90. On essayait de viser une espèce de thématique très Québec rural, années 80-90, Limoilou style vieux Québec. Là, fait que, mais non, j'ai lu Kids on Bike.
OK. Ça, c'est un livre comme les règles du jeu. T'sais. Il n'y a pas vraiment d'histoire ou de scénario dans ce livre-là. Par contre, il y a beaucoup d'exemples. On donne beaucoup, beaucoup d'exemples de situations qui peuvent se passer, d'intrigues qui pourraient avoir. Quelques lignes, c'est là, des pistes d'idées, mais il n'y a pas d'aventure dans ça. Si vous voulez ça, il existe deux livres d'aventure qui s'appellent Strange Adventures, qui sont compatibles avec ces règles-là. Puis ça peut vous donner des pistes justement pour une intrigue. Le bémol que je vois de ce jeu-là, c'est, on sait qu'on a beaucoup de gens, par exemple, qui aiment D&D, puis des jeux de rôle fantastiques, des jeux qui vont sur le long terme souvent, des grandes campagnes. Kids on Bikes, c'est pas tant un projet pour faire une vingtaine de sessions, selon moi, parce qu'un gros défaut avec la progression des personnages, c'est qu'il n'y en a pas. Dans le fond du moment qu'on a choisi le type de personnage qu'on va jouer, à moins que le DM décide d'ajouter des choses à vraiment homebrew, là, tu sais, il n'y a pas vraiment de développement de personnage comme vous ne deviendrez pas plus fort nécessairement ou plus intelligent ou vous ne serez pas plus habile dans une certaine habilité, vous ne serez pas plus résistant parce que c'est un truc qui, d'après moi, peut faire, mettons, un 3 heures, 4 heures de jeu, peut-être pendant peut-être 2-3 fois. C'est maximum, si mettons, vous faites une belle histoire, là, comme une trilogie de films. À la Goonies. C'est sûr que des inspirations là-dedans, Goonies, Stranger Things, des séries comme même Mallrats, on pourrait faire un Mallrats de Kids on Bikes, tu sais, un truc très, très 90s, je crois. Mais c'est ça, c'est l'univers de la jeunesse, c'est l'univers du mystère, de l'inconnu. Puis c'est ça, on peut aller autant dans le paranormal que d'aller dans des intrigues plus policières, si on veut, ou à la recherche d'un meurtrier qui se cache sur notre rue, puis tout ça. Mais c'est ça, ça donne la possibilité de rejouer votre adolescence, si ça est un bon moment pour vous.
Ouais, c'est le genre de choses
qui vous tente. Inventer une adolescence dans les années 80, dans le fond. Ouais. C'est pas mal ça pour qu'ils en baissent. Puis Teen on Space... c'est essentiellement la même mécanique, sauf que ça se passe dans l'espace. Fait que dans le fond, vous avez des choix d'espèces d'aliens que vous pouvez choisir pour faire votre adolescent dans l'espace. Vous concevez un vaisseau aussi dès le début qui vous lancera dans l'univers et vous pourrez vivre du drama dans le fond dans l'espace. Puis voir si vous résistez à une attaque, s'il y a un espion dans votre vaisseau qui tente de saboter votre voyage. Il peut y avoir plein de situations comme ça. Vraiment cool aussi. Pour le artwork, la direction artistique, la façon que c'est écrit, peut-être pas justement pour investir beaucoup, beaucoup de temps. Puis ça, vous allez épuiser vos joueurs, je pense, à un moment donné, si vous décidez de faire un trop gros projet avec ce jeu-là. parfait pour un one-shot puis pour initier du monde, par exemple, au jeu de rôle. C'est très facile de faire un personnage, ça va très, très vite. Puis on peut facilement faire une intrigue qui dure une soirée de temps, finie là, puis on peut. On est loin des dragons, là, tu sais, pour aller dans quelque chose d'un peu plus fun. Excellent jeu à jouer à l'Halloween, justement, là, tu sais, un
truc. Oui, oui, super, super thématique ouais. pour ça, là. C'est un jeu qui est quand même plaisant. Quand je le cherchais avec mon ami de fille, c'était vraiment parce qu'on voulait un jeu quand même plus narratif. On voulait quelque chose de quand même relativement simple, je dirais. Et Kids on Bike remplit quand même ce canevas-là. Là. C'est vraiment... c'est pas quelque chose qui est très compliqué. Mais tout de même, je t'avouerais que je m'attendais à ce que ce soit... plus simple encore, dans le sens que je trouve que Kids on Bike, c'est bon, c'est simple, sauf que je trouve que il y a beaucoup de textes pour, dans le fond, les règles en soi. Il y a beaucoup, dans le sens que je trouve que le livre est intéressant, je trouve que les idées sont bonnes, sauf que je trouve que c'est développé. Plutôt un peu cassé. On dirait que ils ont comme starté bien le livre okay. jusqu'au trois quarts, puis à partir du trois quarts, ils l'ont comme un peu rushé dans le sens que c'est bon, sauf que je trouve que la manière que le livre a été découpé, la manière que les règles sont expliquées, même si les règles sont quand même relativement simples,
je comprends ce que tu veux dire.
Sont pas nécessairement accessibles. Il faut comme leur lire trois, quatre fois pour comprendre ces règles simples-là. Tu comprends ce que je veux dire?
Ouais, il y a beaucoup de tables, puis en fait, le système de juge, je pense que ça, c'est plus un truc qui s'applique au DM, par exemple, pas tant aux joueurs.
Non, c'est en plus pour les DM que c'est le challenge est là.
Parce que, étant donné qu'il n'y a pas de hit point, qu'il n'y a pas d'attaque, qu'il n'y a pas de block stat, qu'il n'y a pas, tu sais, il n'y a rien pour gager, il y a beaucoup, on joue beaucoup, vu que c'est narratif, beaucoup sur l'interprétation, puis dans le livre, ce qu'on donne, c'est des tables qui vous donnent, par exemple, s'il y a un succès de 15 et plus, voici ce que vous pouvez donner comme exemple de réussite. OK, mais là, il y en a comme vraiment beaucoup de ça pour plusieurs types de circonstances, plusieurs aspects du jeu que vous pouvez incorporer ou non. Fait que dans le fond, ça peut être difficile de savoir qu'est-ce qu'on prend de façon obligée pour suivre les règles, autant que ce qui peut être mis en bonus ou qui n'aurait pas été nécessaire de toute façon dans le livre. Mais je comprends ce que tu veux dire. Par contre, des fois, quand il y a plus de règles, justement, ça va plaire à un certain type de DM. Peut-être que l'organisation du livre aurait pu être mieux travaillée, je te l'accorde.
C'est surtout ça. C'est surtout ça parce qu'en soi, je trouve pas que c'est un mauvais livre. Je trouve que c'est juste qu'il y a une espèce de bizarre de mix qui s'est fait entre, on va dire, un côté très minimaliste, puis à un moment, ils ont comme voulu faire ça trop compliqué pour ce que ça pourrait être, visuellement parlant. Mais je trouve quand même que c'est quand même très bon pour ce que ça offre, dans le sens que c'est je trouve ça rafraîchissant dans, on va dire, dans les limites du jeu, dans le contexte où est-ce que c'est vraiment... Tu joues des jeunes, tu sais, tu t'attends pas à ce que ton jeune va... C'est pas comme une game de D&D, justement, où tu t'attends à ce que ton personnage va mourir en train de cracher dans son sang, là. C'est pas ça, là.
Dites-vous que vous êtes dans un film de cette époque-là, là, puis il y a les Gremlins, là, tu sais, par exemple. Ou ce genre d'éléments-là. Là,
c'est fou, une bonne idée.
Breakfast Club,
J'aimerais ça leur jouer.
Je donnerais pas d'eau.
Oui, pas toi, mais sur une PC, là, frère, c'est sûr et certain.
Une game de 15 minutes.
Oui, c'est ça, à peu près.
J'ai pas mis d'eau, et voilà, fin.
Et voilà, fin.
Mais sinon, la même équipe, par exemple, juste une petite note, la même équipe travaille sur deux autres projets qui vont sortir. Un qui s'appelle Kids on Brooms, donc une espèce d'alternative plus dans la sorcellerie, mais pensez à The Chilling Adventures of Sabrina, de Teenage Witch, là, tu sais, sur Netflix, autant que peut-être Harry Potter, mais le côté plus grunge de la fin, là, tu sais, des livres. Mais, je sais pas. Mais, tu sais, le côté plus, je suis moins à Poudlard, super protégé, plus, oh mon Dieu, je peux me faire tuer à tous les coins de rue.
Je vois la ligne, là.
C'est plus dark. Ça se veut plus dark, c'est ça que je veux dire.
Plus Harry Potter et l'Ordre du Phénix, là. C'est là que ça s'enlève. Okay.
C'est pas le gobelet qui meurt, Cédric?
Oui, c'est vrai, mais c'est ça, c'est Goblet Feu, c'est ça que je voulais dire. Oui. on parle une dérape sur Harry Potter.
Oh my God. Il va falloir faire un épisode de ces jeux de rôle d'Harry Potter, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de fanfiction.
Y en a-tu des jeux de rôle d'Harry Potter?
Je pense pas qu'il y en a un officiel, mais je pense qu'il y a beaucoup de systèmes de jeux.
qui peuvent...
Fanfiction de Harry Potter, c'est ça.
C'est sûr que oui. C'est sûr que, genre, même, je suis sûr qu'il y a une adaptation de la 5e édition de Donjons Dragons par Harry Potter. Là. Genre, tout se fait à 5e édition.
Ouais. Moi, je fais toujours le saut quand je vois Star Wars 5e édition. Je fais...
Ah, mais tu as-tu jeté un coup d'œil à Star Wars la 5e édition? Il est vraiment cool. Il est vraiment, vraiment cool pour de vrai. Le gars qui est derrière ce projet-là, je m'étais inscrit sur leur Twitch, là. Pas sur leur Twitch, sur leur serveur Discord, là, puis il y a une grosse communauté de fans. Puis pour de vrai, je trouve vraiment que c'est bien fait, c'est beau. Puis,
mais là, t'as piqué ma curiosité. Je vais aller voir ça. Fait que, justement, Pierre-Philippe, tu allais me parler de jeux dans cette espèce de même univers-là.
Mais oui, mais oui. Oui.
On est des jeunes, puis on est plus intelligent que les adultes. Là.
C'est ça? Exactement ça.
C'est ça, la thématique.
C'est ça, la thématique. Puis moi, c'est quelque chose qui vient beaucoup me chercher en termes de thématique. Je trouve ça très beau de découvrir ça, si on veut. Tu sais, du point de vue où est-ce que t'es là, t'es conscient du danger, t'es conscient qu'il se passe quelque chose de bizarre, mais tu peux compter sur personne d'autre que toi-même et ta gang d'amis parce que les adultes ne te croiront pas ou les adultes font partie du danger aussi. Là.
The power of friendship.
Oui, exactement. Exactement. Fait que oui, j'ai cherché un petit peu. Il y avait quelques noms qui m'ont popé rapidement en tête. Il y en a d'autres que je suis allé chercher parce que j'étais comme plus sûr. Puis c'est sûr que j'en avais parlé brièvement lors de notre... je pense, de ma première émission à Coup Critique, où est-ce que je mentionnais Frioligam, justement. Et eux, ils ont justement le Tales from the Loop, qui, où est-ce que tu incarnes, dans le fond, des jeunes dans une espèce de Norvège des années 80, puis que tu dois, dans le fond, comprendre des histoires de voyage en dimension, puis voyage dans le temps. Puis c'est très, très porté sur, justement, Les enfants ne vont pas mourir. Tu sais, t'es pas une vie, là, quand tu tombes à zéro, t'es pas mort, là, t'es pas en train d'agoniser dans la neige, là, t'es juste comme, tu reçois un coup sur la tête et tu es...
Tu tombes sans connaissance.
Tu tombes sans connaissance ou, tes parents t'attrapent et te chicanent. Ou, tu sais, des choses comme ça, juste pour dire que c'est pas du tout porté vers la violence. Et déjà, c'est intéressant de jouer des choix à un personnage qui va pas nécessairement régler tout problème qui se présente à lui à coup d'épée ou à coup de boule de feu, là. Je trouve que ça permet aux gens d'aller des fois puiser dans leur ingéniosité ailleurs, puis ça peut favoriser aussi un roleplay intéressant. Tu sais, je veux dire, je trouve que c'est un beau challenge pour moi, par exemple, de me dire « Hey, je vais incarner un jeune de 12 ans qui a pas nécessairement les mêmes valeurs que j'ai à ce moment-là. » Puis, outre tout ce que j'ai déjà encensé Frioligan dans le premier épisode, ben je trouve ça intéressant de juste mentionner Tales from the Loop pour quelque chose qui est un peu plus géographiquement plus éloigné. On est très habitué au classique suburban, quartier suburban ou américain, là, où est-ce qu'il y a toutes les maisons sont en ligne, ça ressemble un petit peu, mais ça, c'est vraiment Norvège, un petit village en neige, c'est une autre réalité. Puis, fait que ça, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Le livre est de toute beauté. Pour vrai, là,
le artwork, j'avais fouillé un peu là, après que tu nous en as parlé la semaine passée. C'est tellement beau, là. C'est tellement bien réalisé. Puis en plus, c'est un rare jeu dans cette thématique-là qui a un ensemble de départ. Il y a un kit d'initiation, un peu comme le starter kit de D&D. Il y a un kit Tales from the Loop que vous pouvez acheter avec les règles, puis les dés, puis les une aventure, je pense, il y a tout là-dedans pour commencer à jouer dans cet univers-là. C'est vraiment bien fait, là, vraiment.
Même qu'à la base, c'est même pas un... Ça, avant d'être un jeu de rôle, c'était seulement un livre d'artwork. C'est le gars, il s'appelle Simon Stalenhag, puis lui, au fond, tout ce qu'il a fait, c'est que c'est un dessinateur, puis il avait créé cet univers-là simplement pour le partager aux gens, montrer un peu, dans le fond, à quoi pouvait ressembler... cette espèce de Norvège alternative. Et à partir de là, il y a eu le jeu de rôle qui en est ressorti avec, comme on connaît, comme j'avais déjà parlé du système. Et pour vrai, ça vaut la peine. J'ai un coup d'œil à ça. Là, je trouve que dans le genre, je trouve que c'est dans les très, très bons là, pour incarner des jeunes dans une année 80 imaginative, uchronique, on va dire. Et si jamais vous ne voulez pas jouer... dans le nord européen, ben il y a des alternatives pour jouer dans une petite banlieue américaine.
OK.
Et dans le fond, il y a une petite ville américaine qui est créée pour ça, avec, dans le fond, une adaptation, si on veut, des différents scénarios. Où est-ce qu'ils disent, ben, dans ce scénario-là, au lieu d'être à telle place, ben, c'est à telle place, pour que ça puisse fitter dans le contexte américain, si on veut, de la chose. Et si jamais, admettons qu'on a des auditeurs français qui écoutent présentement l'émission, la traduction française du jeu, The Tales from the Loop, qui est faite par Arkane Studio Publishing, je crois, sont leur nom. Ils ont fait, dans le fond, ils ont traduit une version française et ils ont aussi sorti, dans le fond, un setting, la même chose, une adaptation, mais plus dans la campagne française cette fois-là.
OK. Ça me tombe. En plus, il y a des références pour trois régions différentes.
Ouais.
Dans le jeu.
Exactement.
Puis avec un Quick Start, mais aussi, il y a des modules d'aventure qu'on peut acheter pour ce système de jeu-là. Tranquillement, je pense que ça va prendre beaucoup d'ampleur. Tales from the Loop, parce que avec la série Amazon aussi qui est supposée commencer dans cet univers-là, il va y avoir une proposition encore plus visuelle, puis là, les gens vont vouloir peut-être plus s'embarquer dans cet univers-là. Un peu comme le jeu de Witcher a pris de l'ampleur après que la série est passée, parce que peut-être que les gens qui ne trouvent pas ce jeu vidéo ont fait « Hey, je vais essayer le jeu de rôle. »
Oui, exactement. Ouais. Fait que Tales from the Loop, c'est ça. Sinon, un autre que j'avais passé, est-ce que tu connais le système, dans le fond, Gumshoe?
Non.
Le système Gumshoe, c'est un système de jeu où est-ce que les personnages sont en plus définis par des compétences, puis dans le fond des aptitudes, moins par des caractéristiques vraiment précises. Et c'est un système qui est très, très, très basé sur l'investigation, dans le fond.
Okay.
C'est un système qui va vraiment beaucoup pousser sur, on va dire, la recherche vraiment là, à la manière d'un investigateur de Call of Cthulhu, parce que justement, il existe un jeu qui s'appelle Trail of Cthulhu qui utilise le système de Gumshoe. Et je mentionne ce système-là parce qu'ils ont sorti un jeu qui s'appelle Bubble Gumshoe, où est-ce qu'en fond, tu joues, c'est une déviation du jeu, où est-ce qu'en fond, tu vas jouer des adolescents qui, au-delà de leur vie parallèle scolaire et sociale, vont en fond enquêter sur des mystères divers. Que ce soit, par exemple, tu sais, un peu comme genre...
Scooby-Doo?
Ouais, Scooby-Doo, dans ma tête, j'avais les intrépides, là.
Mais, les intrépides, la meilleure référence.
Oui, exactement, genre les intrépides. Fait que c'est pas non plus comme tu mentionnais tantôt avec Kids on Bike, il n'y a pas nécessairement du surnaturel, où est-ce que ça peut être tout simplement, vous devez arrêter, Marc Labrèche, comme dans l'épisode des intrépides, là, qui prend des photos des gens puis qu'il leur vole des bracelets. Là, c'est vraiment, ça peut être très, très, très terre-à-terre, comme ça peut aller dans le très flyé aussi.
OK.
Puis, puisque le jeu a un bon système pour justement de la recherche, mais je trouve ça, Bubble Gumshoe, je trouve que c'est un beau contexte générique pour pouvoir se créer une team d'adolescents qui vont justement partir à la recherche de élucider des différents mystères de la vie.
Okay.
Et ça, c'est fait par Evil Hat Production, qui est une compagnie que je connais. De plus en plus, que j'aime vraiment de plus en plus. Là, ils sortent des trucs vraiment cool que je vous conseillerais d'aller voir si vous êtes intéressé par des trucs un peu plus indie, comme par exemple, c'est eux qui ont sorti Monster of the Week, qui est un excellent jeu pour, dans le fond, copier le style, par exemple, de Buffy contre les vampires, tu sais, jouer ou Supernatural, tu joues une équipe de tueurs de monstres. Là.
OK.
Je trouve que cette compagnie-là qui font justement Gumshoe, qui ont créé le système Gumshoe, ils ont vraiment des beaux produits. Je vous dis d'aller voir ça. Ça vaut vraiment la peine. Sinon, j'avais également, est-ce que tu connais, Francis, ça s'appelle Laser and Feeling?
Non. Je pensais que c'était autre chose.
Je pensais que c'était quoi?
Il y a un jeu de rôle, je pense que c'est Laser Kittens ou Kitten Laser. Tu joues un chaton qui développe ses pouvoirs surnaturels de lancer des lasers avec ses yeux.
OK, mais non, c'est pas du tout ça.
c'était un vrai RPG. Là,
je te crois vraiment. Écoute, pour d'ailleurs, moi, il n'y a plus rien qui me surprend de nos jours côté jeu de rôle. Là. Il existe absolument de tout, puis je trouve ça parfait.
J'avais encore le jeu de rôle des Sentinelles de l'air. Ça serait...
Ça existe-tu, ça?
Non, mais ça devrait.
C'est sûr, je suis sûr que ça existe, en fait. Je suis sûr que ça existe. Là, une vieille affaire des années 80, là, avec des règles cassées. Là. sûr que ça existe. Et bref, Leisure and Feeling, c'est un jeu où est-ce que, dans le fond, tu incarnes la crew d'un vaisseau spatial. Et c'est vraiment la jouer très, très Star Trek, là. C'était ton vaisseau spatial et tout ça. Et, dans le fond, il existe des hacks de Leisure and Feeling qui sont sortis, dont un que je trouve que ça vaut vraiment la peine de le mentionner parce que c'est vraiment rapide en place. Ça permet de pouvoir jouer avec déjà des jeunes. Ça, mettons que vous voulez initier des gens au jeu de rôle. Puis ça se plug très bien en une soirée sur le coin d'une table, là, pour de vrai. Ça s'appelle True and Daring. Où est-ce que, en fond, justement, vous incarnez une bande de gamins dans les années 80.
Qui joue la vérité conséquence.
Oui, à peu près. Non. Mais ce qui est cool avec ce jeu-là, c'est que ça tient sur une page de PDF. That's it.
OK.
Sur ta page de PDF, tu as tout ce qu'il faut pour... Sur la page de PDF, tu as tout ce qu'il faut pour créer ton personnage, ta personnalité, choisir ton équipement, le système de jeu qui est comme expliqué dans un encadré. Dans le fond, des pistes de départ pour le maître du jeu, dans le fond, pour qu'il starte avec une menace. Qu'est-ce que la menace veut? Pourquoi? Afin de... Puis, dans le fond, tu découvres un peu, justement, avec les joueurs, qu'est-ce qui se passe. Puis, ça se lance avec... Ça se joue avec un D6. Okay. Puis, quelques options pour faire en sorte que tu vas lancer un peu plus de D6. Puis, tu sais, juste te donner un exemple, par exemple. Lorsque tu crées un personnage, il faut que tu choisisses ton cliché. Est-ce que tu es l'intello? Est-ce que tu es le techno? Est-ce que tu es le casse-cou? Il faut que tu choisisses ton rôle dans le fond de ton personnage dans le groupe. Est-ce que tu es le leader? Est-ce que tu es le sportif? Il faut que tu choisisses ta personnalité. Là, tu choisis, dans le fond, un chiffre de 2 à 5 et un chiffre élevé. Tu es le meilleur, dans une section. Fait que tu dis, exemple, moi, je suis 5 en précision. Je suis 5 en science. Fait que, dans le fond, tu vas être le meilleur que les autres joueurs dans cette catégorie-là. Ça, tu vas choisir, dans le fond, ton matos. Ça veut dire, par exemple, tu vas choisir... moi, j'ai un walkie-talkie. Ça, tu vas choisir c'est quoi ton objectif pour toi en tant que, dans le fond, qu'est-ce que ton personnage...
Ton personnage.
C'est quoi son implication dans l'histoire. Puis, vous devez, dans le fond, créer en groupe l'histoire de votre club secret. Parce que c'est un peu ça, l'histoire. C'est que vous avez comme votre petite cabane dans un arbre. Puis là, vous essayez de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que votre club secret a comme équipement, c'est-à-dire, exemple, matériel de pêche, trousse de premiers soins, des lampes torches, puis quel souci ton club a également, par exemple, un voisinage suspicieux, un petit frère envahissant qui n'arrête pas de dire qu'il veut aussi faire partie de la gang, tu vois, le gros classique, là.
Ouais.
Et bref, c'est ça. Puis, tu sais, ça joue vraiment là, d'un claquement de doigts. C'est gratuit, dans le sens que vous pouvez aller chercher sur DriveThruRPG, il ne coûte rien du tout. Vous pouvez quand même encourager, dans le fond, les créateurs, ce que j'encourage.
On veut le tipper, là, ouais.
De le tipper. Mais c'est bon à savoir que, tu sais, c'est très facile d'accès, rapide à mettre en place. Puis, ça se fait bien dans une soirée. Je jouerais à ça, là. Tu sais, j'aurais une gang d'amis qui aiment les RPG, mais pas trop, là, je leur ferais jouer à ça, puis ça serait bien parfait.
Ouais. C'est fou comment comment le jeu de rôle peut nous amener dans des zones différentes, puis justement, perdez pas espoir si vos amis n'aiment pas le jeu de rôle. T'sais. Des fois, c'est juste l'univers du jeu de rôle que vous avez choisi au départ qui ne les rejoint pas, mais ça, c'est des excellentes suggestions pour les amener complètement ailleurs de ce qu'ils préconçoivent de ce que c'est le jeu de rôle. T'sais.
Ouais.
Tu m'as fait penser à un autre jeu de rôle dans cette espèce de, dans à peu près la même thématique, Monster Hearts, qui avait été mis en valeur justement pendant un one-shot de Critical Role qui s'appelait Cinderbrush. Mais là, on est plus dans des ados avec qui sont des monstres dans le fond, qui ont des habiletés de monstres cachés, ils ont tous des secrets, il ne faut pas qu'ils se le disent. C'est un système, c'est rené par le système Apocalypse. Fait que, on parle de D6, je crois, puis d'explosion.
Oui, c'est ça, c'est seulement 2D6. J'ai pas joué à Monster Heart, j'ai eu des très bons commentaires. J'ai pas écouté non plus le one-shot de Critical Role, mais il semblait que c'est dans les très le fun du genre. Là.
Très deep, très. On est beaucoup dans le narratif, beaucoup de l'histoire, ouais. Mais ça tourne beaucoup autour du de l'inconfort de l'adolescence. Notre corps change, notre personnalité change, on est face à des problèmes dans la vie qu'on n'a pas les moyens ou les responsabilités vis-à-vis de la part de l'inconnu de la vie d'adulte, mais mm-hmm. tout ça est représenté beaucoup par ce monstre qui est en dedans de nous. C'est, vous pouvez être un vampire, un loup-garou, une sorcière, une succubus, il y a toutes sortes de
Je vois vraiment un gros parallèle avec genre la puberté de l'adolescence. Puis,
oui, vraiment. C'est vraiment ça que la créatrice du jeu avait voulu mettre de l'avant. On mettra un lien là-dessus aussi, Monster Heart. C'est très bon jeu. Puis allez voir le One Shot si jamais vous ne savez pas c'est quel genre d'univers. Ça peut être vraiment intéressant pour ça.
Oui.
Tu avais une autre suggestion?
Oui, j'en ai une dernière avant de sauter sur... J'en ai deux dernières, on va dire ça comme ça. Un que je trouve très cool, là, c'est on change vraiment de contexte, mais vous jouez encore, dans le fond, des jeunes. Des jeunes, et c'est un livre qui est très beau, que j'ai pas pu essayer encore. Je l'ai surtout survolé, je l'avais acheté justement sur Drive-Thru RPG. Je pense plus vraiment qu'il est trouvable... physiquement, mais en PDF, vous pouvez encore l'acheter. Ça s'appelle Grimm. Je ne sais pas si tu avais déjà entendu parler de ça, Francis.
Grimm, c'est pas dark, justement. C'est pas un univers très dark.
Ça se peut qu'il y ait un autre nom qui porte un autre jeu qui porte un peu ce nom-là.
Grimm est un peu connu dans les univers fantastiques. C'est pour ça que je me mélange.
Mais Grimm, dans le fond, c'est le jeu où est-ce que tu joues des jeunes qui sont transportés dans, on va dire, les contrées, un peu comme, on va dire, en quelque sorte, les contrées du rêve qui sont l'univers des frères Grimm. Fait que c'est comme si vous étiez perdu dans les contes de fées.
OK.
Un peu comme, je sais pas si tu avais déjà vu dans le temps le livre Richard et les livres magiques.
Oui.
Ben, c'est un peu comme ça.
Un peu à la Narnia.
Ouais, un peu à Narnia, où est-ce que dans le fond, vous ramassez une place que vous ne devriez pas être.
OK.
Et Grimm, c'est un peu ça, dans le fond, c'est que vous jouez les jeunes qui sont, dans le fond, perdus dans cette espèce de gigantesque univers qui a ni queue ni tête. Là. Pour vrai, ça part dans tous les sens. Par exemple, ce qui fait la beauté de la chose, c'est que ça peut vraiment aller très loin dans sa psyché puis dans ses thématiques puis ses événements en soi. Ils ont un système de base, pas un système, un univers de base, un setting de base qui est bien expliqué concernant, on va dire, l'implication, par exemple, des sorcières ou que, genre, l'implication de la tige de l'haricot magique de Jack, qui, dans le fond, est utilisée maintenant comme moyen de transport d'un endroit à l'autre au travers, dans le fond, du royaume des frères Grimm.
Okay.
Et les joueurs, dans le fond, justement, incarnent ces jeunes-là qui sont souvent... justement, un cliché, en quelque sorte, des jeunes, le bully, les personnes un peu plus, on dit le rebelle, la petite bolée de la classe, des choses comme ça. Et c'est un système qui est quand même relativement simple. Encore une fois, c'est pas tant nécessairement tourné vers des combats, où est-ce que tu vas, genre, mourir dans la trop souffrance à la Donjon Dragon, là, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment plus, justement, de se cacher... je suis bon au sport, je suis bon dans les tâches ménagères, fait que je peux comme genre être capable de nettoyer plus rapidement tel truc qui a été laissé derrière par tel monstre, des choses comme ça. Et ça fonctionne avec des dés à 6 faces. Et c'est surtout, moi je trouve que c'est surtout un très beau jeu, visuellement. C'est vraiment un très beau jeu. Si juste aller voir le cover du jeu, là, c'est vraiment, vraiment un beau, là, tout en couleur avec une belle texture et tout ça. Là. Disponible sur Drive-Thru RPG en PDF. Ça vaut la peine de jeter un coup d'œil pour de vrai. Je trouve que c'est quand même cool. Puis ça fait un setting qu'on voit pas souvent. Tu sais, le monde, on va dire, le monde des
fairy tales.
Ouais, ouais. Des fables en quelque sorte, mais d'un point de vue de quelqu'un qui n'a pas rapport là.
D'ailleurs, on fait souvent référence à Drive-Thru RPG. Pour vrai, il y a tellement de stock sur le site. Là, vous tapez un thème, puis on va vous amener dans des choses que vous ne pensez pas qu'elles existent. Puis je conseille fortement à tout le monde de consulter ce site-là. Puis pour vrai, il y a souvent des ventes. Vous pouvez souvent découvrir des nouveaux systèmes de jeu pour vraiment pas cher. Trouver des ajouts créé par des créateurs de partout sur la planète pour votre système de jeu préféré. Pour vrai, c'est vraiment cool.
Il y a beaucoup de trucs qui sont très, très... qui sont indie. Il y a beaucoup d'affaires qui sont gratuites, mais que les gens, tu sais, c'est par contribution volontaire, puis ça vaut vraiment la peine d'y jeter un coup d'œil. Là. Pour vrai, un gros plus.
Puis ton dernier jeu?
Ben, mon dernier, c'est drôle parce que c'est celui qu'on s'est fait proposer de parler. Ben oui. C'est vraiment drôle parce qu'on avait déjà décidé ensemble, ça allait être quoi un peu la thématique de notre soirée, de notre rencontre en live. Puis si on s'est fait écrire, tu m'as transféré aujourd'hui. Le courriel de quelqu'un. Ouais, aujourd'hui même, tu m'as transféré le courriel de quelqu'un qui a parlé dans le fond que ça serait cool qu'on parle de tel jeu. Qui est dans le fond un petit Zine Quest, là, comme on les appelle, qui s'appelle Green Dawn Mall, où est-ce que dans le fond, tu joues des teenagers qui se promènent dans un dédale sans fin, dans un mall, un gigantesque...
Un centre d'achat
infini, qui a ni queue ni tête, puis à la recherche, dans le fond, de votre ami perdu, puis à mesure que vous avancez, à mesure que les choses deviennent de plus en plus étranges. Et moi, ça, c'est le genre de choses que j'aime... particulièrement, j'aime beaucoup, là, ça c'est comme quelque chose que je me dis depuis des années, là. Des fois on se dit « j'aimerais ça me partir une collection d'affaires », mais j'aimerais ça me partir une collection de Zine Quest, parce que je trouve ça vraiment cool, des RPG Zine, où est-ce que c'est, dans le fond, c'est des tout petits livrets, vraiment courts.
Système de jeu facile,
c'est souvent des beaux jeux, c'est souvent des jeux qui vont vraiment transpirer en quelque sorte la personnalité de l'auteur, parce que c'est souvent des petites équipes, c'est souvent des une ou deux personnes, et ça permet vraiment de voir des différentes manières de penser sur juste comment est-ce qu'on voit un jeu de rôle, comment est-ce qu'on le perçoit, comment est-ce qu'on le vit, comment est-ce qu'on le joue. Puis moi je trouve que c'est très tangible, je trouve ça très concret comme pamphlet,
comme approche,
Puis Green Dawn Mall, tu sais, quand tu me l'as envoyé, je me rappelle d'avoir vu ça passer sur Kickstarter. Puis ça m'avait comme. Je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce que j'avais dans ce temps-là. Peut-être que j'étais en train de dormir ou peu importe. Là. Mais ça m'avait un peu passé par-dessus la tête. Et pourtant, là, je le regarde, je le lis, puis je suis juste comme genre, oh shit, j'ai vraiment le goût d'essayer ça. Ça doit vraiment être cool. Justement, l'histoire d'une soirée avec des amis. D'essayer de jouer cette espèce de d'univers-là.
Une gang de dos qui flambent dans un mall.
Dans un mall, ouais, puis qui sont genre attaqués par un golem de reçus, dans le fond, d'épicerie, là, où est-ce qu'il y a une image où tu vois un espèce de gros golem fait en papier de reçu qui peut attaquer les jeunes. Puis juste ça, je suis juste comme, oh shit, ça doit vraiment être cool. Puis je sais que c'est ça vient toucher, on va dire, peut-être un aspect quasiment plus. Indie, underground, jeu de rôle que j'aime particulièrement. Là. Je trouve vraiment que le jeu de rôle, il y a comme une couche que des fois tu peux aller chercher. C'est souvent des idées qui sont en dehors du cadre traditionnel comme celui-là, justement.
Je ne sais pas si tu penses comme moi, mais ce genre de petit jeu-là me rappelle toujours cette espèce de petit court-métrage Fantasia. C'est toujours comme un truc un peu weird, une espèce de tangente sur un truc groundé qui s'en va dans quelque chose de super, soit surnaturel, mystérieux, horreur, mais c'est court, tu sais, mais ça te donne souvent une expérience vraiment plaisante, tu sais, d'essayer justement un petit jeu de même, puis là, tu fais « Ah, j'ai le goût d'en avoir plus », mais non, c'est un peu ça l'histoire, mais ça donne le goût d'essayer de plus en plus de petites aventures différentes comme ça. Là, puis...
Exactement. Pour vrai, oui. Moi, ça me... c'est à fond Léon, comme dit l'expression. Mais ça, c'est disponible, Green Dawn Mall, vous pouvez l'acheter sur Itch.io, qui est dans le fond un... Je sais pas si tu connais Itch.io, Francis?
Non.
C'est un site de vente de jeux, au sens large. C'est pas juste des jeux de rôle, c'est beaucoup de jeux vidéo.
OK.
Mais c'est toujours du milieu indie. C'est toujours, dans le fond, très autonome. C'est la personne qui va faire « Hey, moi, j'ai fait tel jeu, essayez ça. » Tu sais, genre, essayez-le, j'ai fait ça, ça vous tente. Beaucoup de jeux vidéo faits, Manitin, le gars qui a passé un an de sa vie à faire un jeu vidéo où tu joues un garçon qui s'en va porter une lettre à sa grand-mère, mais il se fait courir après par des hiboux géants, puis là, il faut essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Tu sais, pour dire que c'est vraiment, il y a de tout pour tout le monde. Et récemment, Itch.io, puis ça fait chier parce qu'on se connaissait pas encore dans ce temps-là, Itch.io, il avait fait une vente pour durant le temps de Black Lives Matter. vraiment, okay, lorsque ça avait starté, pour pouvoir encourager. Si on veut, il faisait une gigantesque vente pour, dans le fond, les gens qui payaient, dans le fond, le montant demandé pour un bundle de jeux. Tout le financement allait pour, dans le fond, des œuvres caritatives pour, dans le fond, justement,
le mouvement
Black Lives Matter, sensibilisation sur la réalité du racisme et tout ça. Et pour de vrai, ça, c'était, je te jure, c'était indécent. Dans le sens que j'ai pas pris le temps encore de tout regarder ce que ça concoctait, mais ce package-là, je pense que c'est une affaire comme 1600 jeux pour 20$ américains, une affaire de même. Fait que là-dedans, wow, j'ai comme une chiée de jeux de rôle que probablement que je n'essaierai jamais de ma vie, mais qui vont dans tous les sens. C'est des trucs très indie, là, où est-ce que tu joues... OK, on est tous un ustensile de cuisine, puis là, ben, c'est genre, c'est le dernier qui se fait laver. C'est des affaires de même, là.
Shotgun, le couteau beurrier.
Ouais, c'est ça, mais là, c'est sûr que si tu peux choisir le couteau, là, c'est pas juste parce qu'on est tout vraiment sans tout avec la merde restante. Mais ça pour dire que c'est vraiment cool, ça. C'est, ouais. Itch.io, là, je trouve que c'est un beau site pour justement essayer des trucs très, très underground, indie. Puis Green Dawn Mall est achetable, dans le fond, sur ce site-là, à 8$ US. Puis pour 8$ US, ça vaut amplement la peine, je trouve.
Oui, vraiment. Puis ça, vous encouragez des créateurs peut-être à, justement, si le jeu a de prendre l'ampleur, à faire une édition en hardcover puis rajouter plus de contenu si vous tripez sur le jeu. C'est comme ça qu'on encourage les gens qui passent du temps à créer ces choses-là. Pierre-Philippe, tu avais une dernière recommandation aussi pour quelque chose qui se passe sur Kickstarter, c'est ça?
Oui, oui. En fait, moi, j'aime beaucoup regarder justement les produits un peu plus autonomes qui se font sur Kickstarter d'un point de vue jeu de rôle. Il y a beaucoup de trucs qui semblent un peu ne pas être intéressants, je dirais. Mais il y a beaucoup de... Des fois, il y a des petites gemmes qui vont sortir côté thématique, côté rafraîchissement, nouveauté. Il y en a un qui m'a popé un peu dans l'œil que je voulais quand même partager. Puis je trouve que ça serait cool que vous puissiez aller jeter un coup d'œil à ça, juste pour le setting, juste pour l'ambiance. Ça s'appelle, dans le fond, ça s'appelle... Yangshi Blood in the Banquet Hall. Et dans le fond, c'est un RPG, c'est un collaborative storytelling RPG, dans le fond, parce que tout le monde participe à la création du jeu.
C'est ça.
Ouais. Il y a quand même un DM qui va gérer la partie. C'est un beau jeu, dans le sens que ça se joue avec des espèces de petites cartes avec des petits designs traditionnels chinois. Ça semble être un système de D8. Il y a des petits pamphlets très thématiques aussi qui embarquent beaucoup dans l'ambiance. Et dans le fond, le but du jeu, c'est que vous jouez une famille qui run un restaurant, dans le fond, dans le America Chinatown des années 20, de jour. Okay. Mais de nuit, vous êtes dans le fond des chasseurs de Yangshi qui sont dans le fond des hopping vampires, qui sont dans le fond les vampires là, du folklore chinois. Dans le fond, c'est des vampires, okay, qui sautent. Puis c'est des vampires qui bondissent. Et c'est ça, dans le fond, le système, c'est que c'est vraiment autant le but, c'est de voir un peu la réalité chinoise dans ces années-là. Autant aussi, c'est de, dans le fond, vivre cette espèce d'expérience un peu horrifique une fois que la nuit vient. Et c'est un jeu qui est très collaboratif. Puis c'est intéressant parce que les personnes qui ont créé le jeu sont très impliquées dans cette communauté-là. Puis tu sais, il y a genre des petits tips là, qui proposent genre, OK, faites pas d'accent, oubliez de rendre la culture trop exotique, ça sert à rien. Tu sais, traitez vos personnages avec respect, essayez de vous tenir loin des stéréotypes. Faites juste un petit peu de recherche avant de commencer, ça pourrait être intéressant. Puis moi, je trouve ça vraiment le fun de pouvoir encourager ces projets-là qui vont justement pousser le jeu de rôle dans des recoins qu'on connaît moins.
Oui, puis c'est un hommage aussi à ces communautés-là, mais
oui.
Il en faut plus des jeux comme ça, tu sais, qu'on n'est pas obligé dans le fantastique, mais plus aller dans du concret qui peut être connu pour plusieurs personnes, tu sais, puis de se mettre à la place de ces communautés-là, autant que comme dans la peau de chasseurs de vampires de folklore chinois.
Oui, absolument. C'est ça. Absolument. Fait que c'est ça.
Fait que, ben écoute, merci beaucoup Pierre-Philippe pour toutes plaisir. Tes suggestions ce soir. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Comme d'habitude, on va mettre tous les liens vers tous les produits qu'on a parlé dans la description de notre épisode. On vous invite à nous suivre sur YouTube. On est sur Facebook, Instagram, Patreon, Twitter, Coup Critique, CA. Vous allez nous trouver partout. Si on utilise des liens Amazon, c'est des liens affiliés qui nous permettent de donner un petit peu d'aide à la chaîne. Merci à tous pour vos bons commentaires. N'hésitez pas à nous laisser encore des suggestions sur des jeux que vous voulez qu'on parle ou des suggestions sur des choses que vous voudriez voir qu'on fasse. On a quelques idées, moi, Pierre-Philippe, on commence à parler de certaines choses. On a hâte de vous montrer ce que ça donnera. Mais entre-temps, on vous souhaite une bonne semaine. Jouez prudemment.
Jouez prudemment.
Bonne game tout le monde.
Au revoir.